Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de débuter la semaine en votre compagnie dans Radio Foot, une émission née en 2010. Cristiano Ronaldo était déjà Ballon d'Or, 15 ans plus tard, CR7 retrouve le sommet de notre sommaire. Malgré ses 40 bougies soufflées, il soulève un nouveau trophée avec son pays. Qui plus est, Cristiano Ronaldo, toujours buteur, toujours capitaine, et une nouvelle fois vainqueur de la Ligue des Nations. CR7 éternel. Éternel problème ou bien éternelle solution pour le Portugal à un an de la prochaine Coupe du Monde. CR7 le maître. Pour son disciple français, en revanche, le bilan est encore un peu... Allez, mitigé. Kylian Mbappé estime avoir fermé quelques bouches après son nouveau but en bleu. Hier, il met fin à une disette, il se rapproche du record. Il a aidé la France à grimper sur le podium de la Ligue des Nations. Tout devrait être au top et pourtant, un malaise semble subsister autour du capitaine. Pas de malaise autour de notre table, je vous rassure, que du CR7, puisqu'il en possède, eh bien, dans ses mots, la virtuosité technique époque Manchester United. Lui, c'est Dominique Sebrac. Bonjour Dominique.
Bonjour Hugo. Il est possible que dans 15 ans, vous parliez encore de Cristiano Ronaldo dans votre sommaire. Hein. C'est possible.
Ou de Dominique Sebrac, ou bien les deux. Il en possède, lui, l'efficacité clinique époque Real Madrid. C'est un tueur devant le but, je vous rassure. Neymanuel, bonjour.
Salut Hugo, salut à tous.
Il en possède l'hygiène de vie irréprochable, impeccable. Vrai. Il s'appelle Hervé Penaud. Bonjour Hervé.
Bonjour, j'aurais préféré être le bon sur le terrain. Finalement, c'est celui qui mange bien. Comme quoi.
Hein, c'est pas si mal, ça permet de durer.
J'espère qu'il écoute quand même autre chose comme musique, Cristiano Ronaldo. Hein, parce que vraiment, les concerts où il va, Hervé Penaud, mon Dieu.
Oh là là, Cristiano Ronaldo qui adore Bruce Springsteen, j'adore.
Et enfin, il partage avec Cristiano Ronaldo une nationalité de vainqueur, il faut le reconnaître. Félicitations à vous, Marco Martins, bonjour.
Bonjour à tous. Oui, un titre de plus, ça fait du bien.
Ça en fait trois pour vous comme pour Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas lequel a été le facteur décisif sur ces 10-15 dernières années.
Je lui laisse les honneurs.
On verra. On va analyser ça dans un instant. On va quand même saluer nos CR7 en coulisses. Pierre-Olivier Guérin à la préparation et le maestro, évidemment, Laurent Salerno à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Attention à Nuno Mendes, il est rentré, le centre, Nuno Mendes, Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Le Portugal relance la finale à nouveau! Et c'est terminé, messieurs, de partout! Entre l'Espagne et le Portugal, on aura donc droit à une prolongation. Et on se dirigera vers la séance de tir au but. Morata s'est arrêté! La balle de break pour le Portugal! C'est parti et c'est dedans! Le Portugal remporte la Ligue des Nations 2025! Le Portugal s'offre le tenant du titre au tir au but!
L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. CR7 a-t-il une fin? Nous sommes 22 ans après son premier transfert à Manchester United. 17 ans après son premier ballon d'or. Le petit gars de Madère, à la fois tête à claque, avec ses gris-gris et ses mèches peroxydées, mais également attachant par son talent et ses larmes en finale de l'Euro perdu à la maison en 2004. Eh bien, ce petit gars, il est toujours là, il a bien grandi. Aujourd'hui, c'est un homme de 40 ans qui va quitter l'Arabie Saoudite, qui a remporté 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, qui a écrasé le football. Je n'ai normalement pas besoin de vous le présenter, encore que on ne le voit plus
on
en Europe
de qui,
depuis quelques temps.
Ah,
et peut-être que nos plus jeunes auditeurs se demandent s'il n'appartient pas au musée Cristiano Ronaldo, sauf que non, l'homme de 40 ans a soulevé hier un troisième trophée avec son pays. Accessoirement, les trois seuls remportés par son pays, par le Portugal. On est bien d'accord, Marco Martins, hein, Euro 2016 et puis les deux Ligues des Nations 2019 et celle d'hier.
Exactement. D'ailleurs, c'est l'unique joueur de cette sélection à avoir remporté les trois titres. Ça montre bien sa longévité et surtout le fait qu'il continue à marquer. On y reviendra après, si c'est un problème ou pas, Cristiano Ronaldo. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il continue à marquer et continue à faire les efforts pour cette sélection, à se transformer. On le voit quand même beaucoup plus collectif, beaucoup plus
meneur d'homme
qu'avant. Ah oui, on le voit beaucoup moins dans l'individualité, l'individualisme sur le terrain et surtout, il défend même ses coachs quand ses coachs le font jouer. Donc, c'est plutôt intéressant. Et il félicite à chaque fois ses coéquipiers du Paris Saint-Germain. Donc, il est content d'avoir remporté enfin quelque chose avec ses coéquipiers.
Temps, c'est les seuls Portugais qui ont brillé cette année, ceux du Paris Saint-Germain.
Lui-même disait que la Saudi League était plus meilleure que la Ligue 1. Donc, il a peut-être dû changer d'avis, peut-être.
Ou pas.
Il a aussi dit qu'il fallait être bon malgré.
Il a aussi dit qu'il fallait gagner la Ligue des Champions pour gagner le Ballon d'Or, ce qui n'a pas toujours été vrai pour lui. Donc, comme quoi, il peut changer d'avis avec une carrière aussi longue. Hein, j'ai rappelé les chiffres. Il a le temps de changer d'avis. Toujours est-il qu'il a triomphé donc en finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne de Lamine Yamal.
Il est plus vieux que son père.
Ça veut aussi dire que le père de Lamine Yamal. Voilà.
Il est plus vieux que la mère aussi.
En attendant, la relève attendra puisque Cristiano est toujours là. Et si on l'écoutait.
Du calme, on vient seulement remporter la Ligue des Nations. La Coupe du Monde, c'est dans un an. Je n'ai aucune idée de ce qu'il va se passer d'ici là. Si je serai en forme ou pas, si j'en aurai encore envie, ça fait partie du jeu. Je ne prends pas ma retraite après cette compétition, mais je vis chaque moment comme si c'était le dernier. C'est ainsi que je vois la vie aujourd'hui, surtout en ce qui concerne le foot. Vous connaissez mon âge, il n'y a pas de surprise. Et bien sûr, je suis plus proche de la fin que du début, mais je savoure chaque instant. Si je me sens bien, si je n'ai pas de blessure sérieuse, je continuerai à jouer. J'ai pris un petit coup, mais ça fait partie du jeu. Le chemin a été long et il en valait la peine. Cette victoire représente beaucoup. Gagner avec le Portugal est toujours particulier.
Valeu a pena. O caminho foi longo e valeu a pena. Mucho. Ganhar por Portugal é sempre especial.
Du calme, mais c'est vrai que la question se pose. Il y a une Coupe du Monde qui approche, ce serait sa sixième et c'est pas le genre de défi devant lequel il a envie de reculer, on l'imagine. Cristiano Ronaldo, Hervé Penaud, vous le voyez déjà aux États-Unis, l'Amérique, il veut l'avoir et il l'aura.
Mais j'adore quand même sa phrase. Je sais pas si je serai là dans un an. Non, en fait, ce qu'il veut dire, c'est je serai là dans un an. Alors sauf blessure, évidemment, mais il sera là de toute façon. Il y a toutes les certitudes du monde.
On sent quand même la sagesse.
Non, mais c'est la sagesse d'un homme qui a 40 ans et qui de toute façon sait que c'est une idole, c'est un monstre absolu là-bas. On l'a vu, hein, l'ambiance qu'il y avait autour du stade. Et puis après, dans le stade, tous les gens ne parlaient que de lui, que de Ronaldo. Vous voyez les pancartes pour Ronaldo. Les équipiers, ils allaient le voir chaque fois. Quand Roberto Martinez, quand il est sorti, quand il l'a remplacé, il l'a pris dans ses bras comme si c'était son fils. Donc, enfin, à un moment, c'est-à-dire qu'il dépasse le cadre du football pur au Portugal. Donc, ça veut dire qu'il sera en Coupe du Monde. Titulaire ou pas, ça, je ne sais pas. On verra son état physique. Mais dans tous les cas, il voudra y aller parce que pour lui, c'est un dernier défi de taille dans sa carrière. Et il y sera.
Mais alors, la question qu'on se pose aujourd'hui dans Radio Foot, Naïm Oniol, c'est est-ce que Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo, il est adoré, bah, il a marqué, il a gagné, donc tout paraît incontestable. Et pourtant, est-ce que c'est vraiment sérieux de toujours compter sur lui pour le Portugal? Il y a plein d'autres joueurs qui pourraient vouloir s'exprimer. Est-ce qu'on a forcément besoin, avec autant de qualité, d'un joueur de 40 ans qui a quand même ses limites? Il a 40 ans, et puis il y a toujours eu des limites avec Ronaldo.
Il a moins de limites que les autres, d'abord, dans un premier temps. Deuxièmement, factuellement, il marque des buts. Hein. Il a mis 2 buts en 2 matchs. Il a marqué en novembre contre la Pologne.
Il a marqué également en demi-finale contre l'Allemagne.
À partir du moment où il marque des buts, où il fait des passes décisives, où il travaille pour l'équipe, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas là.
Mais est-ce qu'il participe suffisamment au jeu? Est-ce qu'il défend suffisamment?
Il ne participait pas au jeu à 25 ans. Donc, il défendait moins à 25 ans que les autres. Donc, je ne vois pas pourquoi on lui reprochait à 40. Puis à partir du moment où il est attaquant, il met des buts, c'est à peu près tout ce qu'on lui demande. Moi, vous me dites, il y a des autres joueurs, d'accord, je fais le tour du secteur offensif du Portugal. Léao, João Félix, pas bon à Milan. Bernardo Silva, il a raté sa saison à City. Bruno Fernandes, il a raté sa saison à Manchester United. Jota, il joue beaucoup moins à Liverpool. Donc en fait, mis à part contre Cessao à la Juve, à peu près tous les attaquants du Portugal n'ont pas été bons cette année. Alors lui, il est peut-être qu'en Arabie Saoudite, il a peut-être que 40 ans, et je ne parle même pas de Ramos au PSG. Il a peut-être 40 ans, mais en même temps, il est efficace. Pourquoi on s'en passerait? Aujourd'hui, c'est toujours beaucoup plus une solution qu'un problème.
Je suis pas d'accord avec Naïm parce que je ne l'ai pas vu faire cette semaine en Ligue des Nations. Alors, je ne vais pas faire de crime de lèse-majesté, sa carrière est géniale. On va pas remettre
ça de toute façon.
Il faut le dire parce qu'il
c'est acté, ça.
Il va y avoir du mais. Donc, les gens croient qu'on balaie d'un revers de la main.
Pas du tout.
Un génie du football, c'est pas ça.
T'es un peu comme ça, toi, Germain.
Non,
toi,
mais je ne l'ai pas vu faire cette semaine des choses que Gonzalo Ramos, par exemple, n'aurait pas faites s'il était titulaire. Je ne vois pas le but qu'il met hier soir. Je pense que Gonzalo Ramos peut le marquer. Cristiano Ronaldo, il est très, très fort avant dans la séance des pénalties, des tirs au but. Hier, il n'a pas pu la disputer parce qu'il est sorti avant. Il avait été victime de crampes. Parce que c'est normal. À 40 ans, vous ne pouvez pas jouer un match que.
Je crois qu'il a pris un coup. Hein. Parce que je regardais un moment, il boitait.
C'est ce qu'il disait.
Je l'ai vu tout de suite dans l'interview qu'on a
sur la cuisse. Et lui-même a dit que c'était durant l'échauffement. Donc il a eu cette blessure à la cuisse qu'il a décidé de jouer malgré cette petite douleur pendant tout le match.
Toujours est-il que la séance phare, là où il aurait pu briller, il aurait sans doute été le premier tireur. C'est comme ça qu'on fait désormais, on met son meilleur tireur en premier. Il n'a pas pu la disputer, donc je ne vois pas ce que... Parce qu'il empêche l'éclosion de Gonzalo Ramos. Moins vous jouez avec un garçon de 22 ans qui est appelé à être le titulaire les prochaines années, moins il développe des automatismes avec les autres, moins il connaît l'effectif, vu que la sélection, c'est un match, 3-4 matchs par an. Gonzalo Ramos, le jour où il sera intégré, il aura 23, 24, 25 ans, ce qui reste jeune hein, pour un international, et il ne connaîtra pas ses partenaires, qu'il n'aura eu qu'à l'entraînement, il n'aura pas les combinaisons en match, il n'aura pas la sensation. Donc ça retarde d'autant plus.
Si Gonzalo Ramos, Dominique, je suis désolé, si Gonzalo Ramos était un attaquant dont vous nous parlez, il serait titulaire au PSG, il n'y aurait pas de débat. Je pense que s'il jouait 40 matchs au PSG et qu'il mettait 40 buts, il n'y aurait pas de débat.
Le problème, c'est que. Dans un club où l'entraîneur préfère jouer en faux neuf qu'avec un vrai attaquant, et malgré tout, malgré son faible temps de jeu, c'est le troisième buteur du club.
C'est le troisième buteur.
Donc c'est pas une pipe quoi.
J'ai jamais dit que c'était une pipe.
C'est le troisième buteur du PSG.
Si Gonzalo Ramos était si efficace que ça, je pense qu'il aurait plus de temps de jeu en club. Et si c'est ça, il serait davantage titulaire avec l'équipe du Portugal. Alors c'est pas le pire attaquant.
Je vous concède
de faire jouer avec Ramos qu'avec un Félix.
Et si on écoutait, tu peux pas Naïm avec Cristiano Ronaldo.
Mais il marque des buts.
Si tu le sélectionnes, tu le fais jouer. Dominique, tu vas pas le mettre sur le banc. On a vécu ça.
Dominique Naïm. Oui, mais et si on écoutait le Portugais qui est autour de cette table, Marco Martins. Est-ce que ce genre de débat ils ont lieu au Portugal? Est-ce qu'on continue de s'interroger? Est-ce qu'on s'interroge ou est-ce qu'on commence peut-être à s'interroger sur
toujours.
Le fait de sélectionner ou pas Ronaldo,
non,
de passer à autre chose, oui.
Ça fait des années, sauf qu'en fait, aucun n'arrive à prendre la place non plus. Il y a eu André Silva qui a marqué 5 buts lors de ses premiers matchs en sélection. C'était un poker plus jeune. 5, c'est pas un poker, si.
Quoi?
Il a marqué 5 buts. Il a marqué 5 buts avec la sélection et tout le monde disait qu'il allait prendre la place en fait de Cristiano Ronaldo. Or, il a pas réussi. On voit sa carrière, André Silva. Je sais pas si vous vous en souvenez. On le voit plus trop. Il a disparu de la sélection. Gonzalo Ramos, je pense qu'il a eu sa chance déjà en 2022 lors de la Coupe du Monde face à la Suisse. Il marque.
Et puis
lors du match face au Maroc, il se loupe. Fernando Santos est viré. Et Roberto Martinez promet, Cristiano Ronaldo qu'il sera titulaire.
Il avait 20 ans. Moi, je me souviens de l'arrivée de Trezeguet d'Henri à 20 ans en équipe de France. Ils n'étaient pas titulaires. Là, tu me parles d'un joueur qui avait 20 ans.
Oui, mais il n'y avait pas Cristiano Ronaldo devant. Il y avait Dugarry et Guivarch, pas pareil.
Bah oui, ils n'étaient pourtant pas titulaires.
Oui, mais tu
donc
vois, il y avait la place. C'est-à-dire qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas non plus indispensables. Mais Cristiano Ronaldo, il marque.
On laisse le temps aux joueurs de
Je suis d'accord. Je suis d'accord.
Hier, il a une demi-heure, Gonzalo Ramos.
Factuellement.
Marco Martins, juste pour que vous puissiez conclure, donc vous nous disiez il y a quand même ce débat-là.
Depuis des années en fait, il y a ce débat-là. Depuis
mais donc là,
des
avec, années, avec Martinez, pas, il a toujours été clair que Ronaldo viendrait tant qu'il aurait envie de venir.
Oui, c'est ça. Roberto donc, Martinez,
la Coupe du Monde 2022.
Je me demande si c'est pas un peu dans le deal exactement de son arrivée à Roberto Martinez. C'est moi j'arrive et Cristiano sera titulaire. Tant qu'il le veut, tant qu'il le souhaite. Et hier, il bat encore un record. C'est le joueur le plus vieux à avoir marqué en finale d'une.
Mais en fait, je pense que c'est ça qui met
le record. Hervé Penaud.
Oui, non, parce que le problème dans ce genre de débat, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir même ce joueur-là sur les autres. Il le dit très bien, Roberto Martinez. Il a dit, mais vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il représente dans le groupe. Et à un moment, effectivement, il phagocyte un peu tout. Ça fait que quand Gonzalo Ramos il veut jouer, ce n'est pas le Gonzalo Ramos peut-être du PSG, parce qu'il n'a pas le même poids, le même impact sur le groupe. Et aujourd'hui, quand vous avez un Ronaldo, que j'ai trouvé effectivement dans le match, j'ai trouvé moyen. J'ai trouvé, par exemple, en grosse difficulté face à le Normand, chaque fois arrivait à l'impact, à lui prendre les balles. Ce qui était quand même. Mais il a trouvé cette solution. S'il trouve pas la solution, ça on peut en rediscuter, mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On a un joueur qui marque et vous fait gagner d'une certaine manière ce trophée-là, qui est un trophée important, on l'a vu, hein, la joie de tous les Portugais. Donc à un moment, vous êtes obligé de vous dire, c'est vrai que ce serait peut-être mieux avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas c'est bien avec lui.
Il a fait une grande Coupe du Monde il y a un an et demi, il y a deux ans et demi.
Mais les autres non plus.
Non, mais... il en a fait. Je me demande s'il en a fait une bonne. En fait.
Ouais. Bah voilà. Donc ouais. Il y a deux ans et demi, il était déjà pas fantastique avec le Portugal. Donc là, on parle de Ligue des Nations, c'est super. Hein, je suis très content pour le Portugal. Vous avez gagné.
Ouais, enfin, c'était l'Espagne, en face.
Oui, oui, oui. Mais je pense que on va peut-être en parler. Mais l'Espagne, ce qui a.
Mais Martinez, moi j'ai la sensation que Martinez.
C'est pas Cristiano Ronaldo qui a musé l'Espagne. C'est par exemple les défenseurs.
Mais Martinez, il est très politique aussi comme entraîneur. Faut pas l'oublier. Et quand il est venu. Il a dit tout de suite, mais Ronaldo, il aura le droit à tout. Parce qu'il savait que de toute façon, pour être sélectionneur, le nouveau sélectionneur, il fallait être adoubé par Ronaldo.
Ça, c'est ça,
et tout ça, je n'ai pas dit que c'était ça. J'ai 100% d'accord, c'est pas ça. Mais ça fait, ça fait partie de l'histoire des sélections.
Martinez n'avait gagné aucun titre jusqu'à maintenant. Il l'a réussi avec le Portugal.
Un dernier mot, Neymoniel.
Non, rien de plus à dire. Je défends Cristiano Ronaldo. Pour moi, il mérite sa sélection.
Puis
on veut être sympa avec David Gelli.
Jusqu'aux États-Unis, vous défendrez Cristiano Ronaldo. Bah, écoutez, on va lui passer le message.
Si il n'est pas bon cette saison, qu'il est complètement nul, qu'il n'a pas de club et qu'il n'est pas efficace en sélection, je ne vous dirai pas qu'il faut le prendre. Mais moi, j'essaye d'être le plus factuel possible. C'est comme avec Mbappé. Il met 2 buts en 2 matchs. Il marque à toutes les sélections. Puis il faut voir aussi ce qu'il génère dans la tête des adversaires. Enfin, les autres ne le font pas.
Excellent teaser. On va parler de Mbappé qui. Il n'est pas loin de générer des débats qui ressemblent. Hein. Voilà, c'est peut-être pas l'héritage.
À 26 ans, c'est inquiétant.
C'est peut-être pas la lignée dans laquelle voulait s'inscrire Mbappé quand il avait Ronaldo pour idole quand il était adolescent. Allez, le dernier mot, parce que vous êtes le vainqueur du jour, Marco Martins.
Hier, il a dit qu'il resterait certainement à Al Nasser. Ouais. Donc il devrait rester en Arabie.
Donc j'ai dit une bêtise.
Une saison plus. Après, c'était un peu dans l'émotion. Il a dit ça. Donc, et puis, il a d'autres défis. Il aurait peut-être le défi de jouer avec son fils, qui a 15 ans. Donc, il faudrait jouer 3 années de plus jusqu'au prochain Euro.
En NBA. Donc,
exactement.
On assiste peut-être à une tendance.
Il est où, là, le fils ?
Al Nasser. Et il a été sélectionné avec le Portugal U15 il y a un mois.
Il a marqué un beau but, d'ailleurs.
Ils ont le choix en U15 de le sélectionner ou ils n'ont pas le choix là.
Je me demande, vraiment.
Bon, en tout cas, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si en 2035, on fera toujours des émissions sur Cristiano Ronaldo, mais on aura peut-être Cristiano Ronaldo Junior à débriefer.
Dominique Serra. Il sera peut-être sélectionneur à ce moment-là.
À l'occasion de son transfert au Paris Saint-Germain. La parole aux auditrices et aux auditeurs, comme chaque lundi dans Radio Foot à 40 ans. Cristiano Ronaldo est-il toujours indispensable pour le Portugal ? Eh bien, vos réponses.
Cristiano Ronaldo est indispensable dans le foot mondial, pas qu'en sélection portugaise seulement. C'est le meilleur joueur du monde. S'il arrête le football, j'arrête de regarder le ballon.
J'ai vu les gens Jeko Rankana depuis la ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Cristiano Ronaldo est encore indispensable pour sa sélection. Parce que même s'il ne marque pas, même s'il ne joue pas comme auparavant, son influence sur les défenseurs de l'équipe adverse peut toujours faire quelque chose pour l'équipe.
Si Djibi Sam, depuis que ça a l'embarqué au Sénégal, Cristiano Ronaldo est toujours indispensable. C'est le meilleur joueur au monde, le meilleur joueur de l'histoire du foot. Vive Cristiano Ronaldo!
Je suis nous qui travaille avec le directeur d'Ordenjamena au Tchad, Cristiano Ronaldo. Plus il vieillit, plus il devient performant. Il est toujours indispensable à l'équipe nationale du Portugal.
C'est Marino depuis Abidjan. Pour moi, Cristiano Ronaldo, jusqu'à aujourd'hui, est indispensable à l'équipe nationale du Portugal. Vu que Gonzalo Ramos m'est rentré après, il n'a absolument rien foutu.
Si c'est Benin Luta depuis la ville de Kinshasa, non seulement il a marqué, mais il a fourni beaucoup d'efforts défensifs que nous tous nous avons vus.
Mariama depuis Guinée-Conakry. Bien sûr que Cristiano est indispensable pour cette équipe, pour tout ce qu'il incarne en tant que capitaine. Il est performant, tout ce qu'il apporte en tant que leader. Comment ne pas aimer ce grand monsieur de 40 ans?
Amdiata Ndiaye depuis la Guinée-Conakry. Je pense que personne n'est indispensable. Mais ce qu'est en train de réaliser Cristiano Ronaldo avec le Portugal, c'est extrêmement important. Avec son expérience, il est en train d'apporter beaucoup. Je pense qu'il peut bien continuer avec cette équipe jusqu'à la Coupe du Monde 2026.
Nos auditrices et nos auditeurs ont du talent et des avis. Ils l'expriment sur WhatsApp, enfin, via des notes WhatsApp, et ils l'expriment dans Radio Foot chaque lundi.
Sur le WhatsApp à vous, Hugo ?
Le numéro, non, on a un numéro spécial que vous retrouverez sur notre page Facebook. Quant à vous, chers chroniqueurs, ben, vous êtes comme Cristiano Ronaldo, vous n'en avez jamais assez. Vous avez poursuivi les débats pendant qu'on entendait nos auditrices et auditeurs, mais vous avez raison. Je voulais passer à une question qui ne concerne pas seulement Cristiano Ronaldo, mais toute l'équipe du Portugal, Marco Martins. Martins. Il y a du talent, il y a énormément de talent et ce n'est pas quelque chose qu'on découvre cette année. Ça fait plusieurs années et ce talent, bah, il se confirme assez peu finalement, malgré les trophées remportés depuis 10 ans. Mais là, les dernières Coupes du Monde, par exemple, ça n'a pas été génial. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est en train de se créer avec Roberto Martinez et ce titre d'hier en est la preuve?
Bah, peut-être qu'en étant contesté, Roberto Martinez va enfin réussir à gagner quelque chose. Je le disais, c'est son premier titre avec le Portugal et il a eu de la génération dorée belge. Il n'en a rien fait.
Donc, il a fait une troisième place en 2018, c'est ça. Ce qui est pas
le Portugal aussi fait une troisième place en Coupe du Monde. Enfin, je ne sais pas ce que valent vraiment les troisièmes places, mais Roberto Martinez était très contesté. Beaucoup disaient qu'il allait être remplacé justement s'il ne gagnait pas cette Ligue des Nations. Il y avait déjà José Mourinho et Jorge Jesus qui étaient derrière en train de scruter la place. D'ailleurs, José Mourinho était en tribune hier, peut-être déjà pour voir s'il pouvait tâter le terrain. Bon, malheureusement, Roberto Martinez a gagné. Cette génération, il y a beaucoup de bons joueurs. C'est peut-être la meilleure génération qu'a eu le Portugal parce que surtout, il y a un banc. On parlait devant hier, il y avait Francisco Conceição, Pedro Neto et Cristiano Ronaldo. Mais derrière, vous avez Rafael Leão, Milan AC, Diogo Jota, Liverpool, Gonçalo Ramos, Paris Saint-Germain, pour ne citer que. Donc on peut quand même changer toute la ligne de devant pour mettre des attaquants qui sont très efficaces.
Le problème, Marco, c'est que le Portugal, c'est pour moi pratiquement la sélection nationale la plus frustrante du monde. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord sur la qualité individuelle des joueurs.
Mais depuis toujours.
Mais il y en a combien qui réussissent vraiment? Et est-ce que cette sélection nationale, à un moment donné de son histoire, a eu une séquence de 2, 3, 4, 5 ans où elle a développé du jeu comme a pu le faire l'Espagne sur ses belles années, comme a pu le faire la France entre 1998 et 2002? Est-ce qu'il y a eu une séquence comme ça qui a existé au Portugal?
Il y a eu le Joga Bonito, à un moment donné, le Joga Bonito avec les Luis Figo, avec les Rui Costa.
Mais ça a gagné quoi aussi?
Rien, justement. Voilà. Et depuis, c'est un jeu beaucoup plus défensif. On se rappelle quand même de Fernando Santos en 2016. Il n'y en avait pas beaucoup qui aimaient le jeu du Portugal.
Vous êtes un pays extrêmement frustrant, parce que je ne crois pas qu'il existe un autre pays qui soit en mesure, génération après génération, de renouveler autant son effectif avec une telle qualité. Les Pays-Bas l'ont fait pendant très longtemps. Ça s'est un peu stoppé dernièrement.
Mais on parle en plus de pays assez peu peuplés. Là, vous comparez avec les Pays-Bas, vous pourrez comparer avec la Belgique, donc Roberto Martinez. Donc on n'est pas sur la France, l'Angleterre ou l'Allemagne qui peuvent générer des vagues de joueurs.
Et les Allemands qui ne génèrent pas.
Là, il faut parler absolument de Nuno Mendes, pas parce qu'il est au PSG, mais parce qu'il a quand même mis au supplice Mohamed Salah en Ligue des Champions et Bukayo Saka, quand même, de Arsenal. Et là, hier soir, c'était quand même Lamine Yamal.
Il l'a éteint.
Qui avait dit que ça jouerait le Ballon d'Or cette semaine, puisqu'il est un petit peu comme ça, il aime bien...
Il est de son temps,
il a son âge.
Il va avoir 18 ans en juillet. Et là, Nuno Mendes, encore peut-être le meilleur joueur du monde, pour moi le meilleur joueur du monde, après Ballon d'Or ou pas Ballon d'Or, on verra, mais pour moi le meilleur joueur du monde, il l'a éteint. Et donc ça commence à faire beaucoup. Je trouve que depuis qu'il a prolongé au PSG, donc depuis qu'il est libéré des enjeux contractuels, il a pris une autre...
Le Ballon d'Or. Est-ce qu'il pourrait concurrencer Ousmane Dembélé?
Non, je non, pense mais ça me pas fait que ce soit le débat.
Ça me fait dire, parce qu'il y a aussi Achraf Hakimi, il faut en parler, que Paris a les meilleurs latéraux du monde. En fait.
Non, mais c'est vrai que Hakimi pourrait concurrencer.
C'est un autre débat, c'est un débat intéressant. Marco Martins, cette PSG Connection, si je puis dire, cette filière PSG pour l'équipe du Portugal, ça fait du PSG un club spécial dans... Vous l'avez dit un peu pour Ronaldo et pour les Portugais en général. C'est un peu le club plateforme pour les Portugais.
Ouais. Ça l'est devenu avec Pedro Pauleta, avec les Humberto Coelho qui sont passés par le Paris Saint-Germain, entre autres.
Mais là, il y a Vitinha, il y a
maintenant, il y a quatre joueurs qui réussissent à remporter des titres. Et puis surtout, la première Ligue des Champions, il y a quand même quatre joueurs portugais qui sont, pas titulaires avec Gonçalo Ramos, mais presque tous titulaires dans cette équipe. Mais au Portugal, ils ont quand même du mal à s'imposer, si ce n'est Nuno Mendes qui s'impose assez facilement sur son côté gauche. Vitinha, il n'est pas toujours titulaire dans ce milieu à 3. Parce que dans le milieu à 3, bien sûr, il faut compter qu'il y a Bernardo Silva et Bruno Fernandes. Donc, il n'y a plus qu'une place. Et bien souvent, Martinez veut jouer avec un milieu défensif. Donc, c'est Ruben Neves ou Juan Pelinha.
Il n'est pas titulaire contre l'Allemagne, Vitinha.
Exactement. Bon, là, il y avait peut-être la gestion quand même
mais
de la
coup,
fatigue.
Mais du coup, on en revient à notre question. Dans un effectif où vous pouvez vous permettre de mettre Vitinha sur le banc, ça veut dire que, logiquement, il faudrait faire un peu mieux que des huitièmes de finale ou quart de finale de Coupe du Monde.
Alors, ça, il l'a piqué à Luis Enrique.
Oui, il l'a complètement dit. D'ailleurs, c'est à cause de la dynamique qu'il a mis Joan Neves côté droit, qui a été hier pas du tout bon face à l'Espagne.
Mais alors, par rapport à tous ces choses que nous sommes en train de dire, est-ce que vous voyez quelque chose se construire et enfin un allant du côté du Portugal, ou est-ce que vous restez sur le scepticisme exprimé par Naïm Moniol?
Je reste sur mon scepticisme.
Et Hervé Penaud?
Non, moi, je pense que c'est une équipe, de toute façon, qui va arriver à la Coupe du Monde avec des atouts. Hein, vous savez, une Coupe du Monde, ça se joue sur pas grand-chose. Hein. Alors, je dis pas des détails, parce qu'il n'y a rien qui m'insupporte plus que de parler de détails. C'est ridicule, ça se joue sur du football.
Alors, j'ai plutôt parlé à votre cœur. Est-ce que vous avez envie qu'elle brille, cette équipe, avec tous les beaux joueurs qu'elle a?
Ah oui, pourquoi pas? Mais moi, je serais plutôt pour les équipes africaines, moi. Donc, vous voyez, je vais pas non plus demander à ce que toutes les équipes brillent.
Hugo, il faut qu'elle évolue, il faut qu'elle se mette à jouer au foot parce qu'elle a tellement un beau matériel que elle ne devient pas une sélection séduisante.
Ouais, mais alors, France 2018,
on va entendre, alors peut-être pas le meilleur joueur de ballon du coup de cette équipe, donc pas très représentatif, Ruben Neves.
C'est indescriptible, je pense que c'est le meilleur moment de ma carrière sportive. Avoir le pénalty décisif comme ça, au bout du pied, c'est incroyable. Heureusement, j'ai réussi à le marquer et à offrir le titre à mon pays. C'est une source de grande fierté. J'étais nerveux, mais je savais ce que valait ce penalty. J'étais bien préparé. Je pense que cela rend les choses beaucoup plus faciles quand on se prépare pour ce moment. On savait que ça pouvait arriver. Je l'ai fait. J'ai réussi à marquer et à remporter le titre pour le Portugal.
Infelizmente, comme dit, consegui fazer o gol e dar o título à Portugal.
Ruben Neves, c'est décidément les débats qui se poursuivent dans les éléments sonores de cette émission. Ruben Neves donc qui a marqué le tir au but décisif, ce qui nous amènera vers dans quelques instants celui qui a raté son tir au but décisif, qui dans le mauvais sens du terme du côté de l'Espagne, à savoir Alvaro Morata. Mais avant de passer à l'Aurora, je crois que Naïm Moniol avait roulement de tambour une question pour Marco Martins.
Moi je voudrais rebondir sur ce que vous disiez en disant ouais, mais au milieu de terrain Vitinha n'est pas titulaire parce qu'il y a Bernardo Silva et Bruno Fernandes, donc il reste qu'une place. Donc au Portugal, vous avez des débats sur Ronaldo quand il est bu en club, en sélection, savoir s'il doit être là. Par contre, Fernandez et Silva, qui sont vraiment pas bons en club, eux, il n'y a pas de débat sur leur place.
Ça fait partie des talismans de cette équipe. En fait, Roberto Martinez, il a des joueurs qu'il doit obligatoirement mettre. Je ne sais pas si c'est inconsciemment, je ne sais pas si c'est sous la pression. Je ne saurais pas vous dire. Je sais que Bruno Fernandez, c'est le vrai capitaine de cette équipe.
Moi, je trouve
le capitaine,
que c'est
lui le capitaine dans cette équipe, et ce n'est plus Cristiano, même s'il a le brassard, c'est lui qui commande, donc il devra obligatoirement être titulaire. Bernardo Silva aussi au milieu de terrain, parce que justement il ne peut plus faire ailier, même si hier soir justement il est passé ailier parce que Francisco Conceição n'a pas été très très bon. Donc il n'y a plus qu'une seule place, soit c'est pour Vitinha, soit c'est pour un milieu défensif. Et beaucoup demandaient, mais pourquoi on ne retrouve pas João Neves et Vitinha au milieu de terrain? Mais parce qu'il n'y a qu'une seule place. En tout cas, il ne changera pas d'avis, Roberto Martinez, en tout cas pour l'instant sur ce sujet. D'accord. C'est Bernardo Silva, Bruno Fernandes et un troisième. C'est pour ça qu'il a décalé João Neves à droite. Ça n'a pas fonctionné. On verra si sur les prochains mois, oui, si Bernardo Silva, je ne sais pas, part de City et va autre part et est moins bon, il y aura une deuxième place. Mais en tout cas, Bruno Fernandes, lui, il est garanti, c'est le capitaine, le vrai capitaine de cette équipe portugaise.
La très bonne question de Naïm Moniol, la réponse.
Il a souvent des bonnes questions. Il a pas souvent des bonnes réponses, mais ces questions sont très bonnes.
La réponse encore meilleure de Marco Martins dans Radio Foot, Hervé Penaud et Dominique Serac sont excellents également. On va parler de l'Espagne à présent, qui rate l'occasion d'enchaîner un troisième titre de rang. Il y avait la Ligue des Nations 2023, l'Euro magistralement remporté en 2024, et donc cette Ligue des Nations 2025 qui leur échappe aux joueurs de Luis de la Fuente, car Alvaro Morata a raté son tir au but, on l'écoute.
C'est triste, nous avons tous fait un excellent travail pour essayer d'apporter un autre titre à l'Espagne et je me sens mal pour tous mes coéquipiers parce que nous avons travaillé dur. Mais bon, cela fait partie du football et de la vie. C'est clair que je n'ai pas bien tiré et ça ne peut pas changer. La dernière fois, j'ai gagné l'Euro, là je dois accepter et rentrer à la maison, énervé, je ne peux rien faire d'autre.
Premier accro depuis quelques temps finalement pour cette Rora qui semblait être redevenue cette armada séduisante, pleine de certitudes sur son identité de jeu et qui devait rouler sur tout le monde et qui a été stoppée donc par le Portugal. Encore une fois, félicitations à vous Marco Martins. Est-ce que les autres, vous avez été surpris, Dominique Sévrac?
Bon, elle a long... Alors déjà, ça joue sur un pénalty, hein, sur un tir au but, donc on va pas... C'est ça, quand même, ça
c'est pas une déroute, c'est exactement...
Ah, ça se joue à rien. On serait peut-être en train de parler aujourd'hui du fait que l'Espagne est triomphante, que c'est... s'ouvre une dynastie, la Coupe
Alors,
du Monde...
je vais mettre un petit bémol à mon lancement, enfin plutôt un complément. Elle a pas remporté sa finale hier, mais en plus, son joueur étendard, Lamine Yamal, a été plutôt décevant.
Alors, c'est la première fois que je le vois rater un match important. D'habitude, dès que c'est un très grand match espagnol, donc les classicos, les matchs contre l'Atlético, il est, ou les matchs de Ligue des Champions, il est prodigieux. Contre la France, il a été fantastique. Sans être génial, il a été fantastique. Juste fantastique, ça permet de, quand même de mener 5-1 à un moment donné. Donc, c'est la première fois que je le vois passer un peu au travers. Il va avoir 18 ans le 13 juillet prochain. On peut lui accorder de rater peut-être une fois dans sa vie, pour l'instant, un match, c'est pas bien grave, hein, on va pas s'inquiéter. Non, l'Espagne, j'avais la même opinion après l'Euro, je trouve qu'elle défend très très mal, ouais. C'était Aymeric Laporte et le Normand à l'époque, là maintenant, ils ont changé, bah, c'est toujours, Romain Le Normand, il est avec le garçon qui a signé au Real Madrid, Huisen, et donc, moi, je trouve que ça défend très très mal, un peu comme Barcelone, qui a une équipe fantastique offensivement, mais qui a une défense apocalyptique pour moi, se faire éliminer par l'Inter Milan 7 buts en demi-finale, c'est pas possible. Et donc là, ils en ont pris 4 contre la France. Alors, il y a une forme de relâchement quand vous menez 5-1. Évidemment, dans la tête, vous vous dites c'est gagné, puis il y a un relâchement. Donc déjà, 4 buts contre la France, c'est un peu suspect. Là, pareil, vous menez et vous vous faites remonter. Donc pour moi, il y a un problème défensif et ça peut pas aller loin. Toutes les compétitions de tous les clubs ou de toutes les sections sont gagnées sur l'assise défensive. Si vous défendez mal, vous n'allez jamais loin.
Avec pourtant un bon gardien en plus. Parce que parfois, l'addition...
Le Simon être...
ouais, moi, ouais. Je trouve que c'est un super gardien.
Vous êtes inquiet pour cette Espagne? Est-ce que, justement, elle doit travailler sur certains secteurs, le secteur défensif
Dominique,
notamment?
Dominique a mille fois raison. Si quand vous êtes en difficulté derrière, c'est jamais de bon augure pour une compétition. Ce qui est inquiétant surtout, c'est qu'on a parlé de Laporte, de Lenormand et de Huisen, donc trois joueurs naturalisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Espagne, depuis quelques années, ne peut plus sortir un défenseur central de haut niveau. Ça pose des questions.
Il y a Koubarsi,
bon,
mais...
Voilà. Donc, ouais. Bon. Donc on va dire que ça peut être inquiétant, parce que je pense que le championnat d'Espagne est quand même un championnat de qualité avec des centres de formation de valeur. Si on n'est pas capable de trouver un Espagnol pour jouer derrière dans l'axe, ça va être difficile.
Il y a les deux de Barcelone, je ne sais pas pourquoi il ne les prend pas aussi.
Ouais,
si ce n'est Koubarsi, il y a aussi Martinez.
Après, moi je ne sais pas, est-ce que Koubarsi aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que Koubarsi peut s'imposer à son âge
au Barça quand même.
Ouais, mais enfin la défense du Barça, ce n'est pas le secteur qui a le plus brillé cette année. Donc c'est voilà, je ne sais pas, moi je ne crois pas que...
Koubarsi, il est bon.
Voilà.
Koubarsi, il est bon.
Il est bon de l'être.
Il est champion olympique.
International, titulaire international comme ça en Espagne, je sais pas.
Peut-être le normal, plus tard. C'est moyen plus, on va dire.
Bah, voilà, je pense que c'est un peu plus fort.
Oui,
c'est moyen, mais c'est un peu plus fort que Koubarsi, je trouve. Donc voilà, c'est inquiétant, disons que ça pose question. De là à s'inquiéter, je veux dire, gagner l'Euro, faites une finale de Ligue des Nations, ou vous êtes capable de marquer 7 buts en 2 matchs, ça va.
Bon, on va pas s'inquiéter pour...
Ici, on s'inquiète pour eux, alors pour nous, on fait quoi?
Pour l'Espagne, justement.
Hein. Pour l'équipe de France. Mais c'était une passe décisive, là.
Exactement, superbe.
Ouais, j'aime bien
quelques
ça.
Mesures, alors c'est pas Bruce Springsteen qui ambiancé le stade Vélodrome alors que Paris remportait la Ligue des Champions. Donc
exactement.
Il faut faire des choix dans la vie.
Il sera un héros à Marseille. Je ne sais pas si vraiment ça l'intéresse. C'est pas son combat du moment au boss, mais voilà, il aura marqué les esprits au moins pour ça, entre autres. Là, ça vient d'Italie, ce qu'on écoute. Un autre pays qui a des problèmes footballistiques, mais on en parlera un peu plus tard. Gassa, Fadje AVD.
Mm-hmm.
Questo suono amare.
Gassan, Gassa, Fadji Avedé, un titre que vous pouvez retrouver sur la playlist de RFI, RFI Musique, c'est vraiment l'adresse qu'il vous faut.
Ah oui.
Vous qui aimez le bon son, je sais qu'il y a des puristes autour de cette table, Hervé Penaud, Dominique Sévrac, Naïm Moniol, qui lui va aller voir Hugo Frey en concert bientôt, et puis Marco Martins.
Oh oui, ah oui. Tu sais jamais quand sera son dernier concert.
Bah il a 93 ans, non
95.
95, oui. 95.
Je ne valide rien du tout de ce qui vient d'être dit.
Le centre de Chouanet dans le dos de Kimmich. Mbappé, oh, il en suffit d'une. Voilà le premier but de Kylian Mbappé dans le jeu depuis plus d'un an. Pas beau, mais efficace.
Allez, là il est tout seul, peut-être avec Olysée.
Peut-être avec Olysée, allez, il va le servir. Oui, il va
ouais,
le servir.
C'est bien joué, ça, magnifique.
C'est dans l'esprit du jeu.
On finit troisième, c'est mieux que quatrième. On finit la saison sur une victoire face à l'Allemagne.
Troisième, c'est mieux que quatrième. Et 50 buts en 90 sélections, c'est pas mal non plus. Seuls Thierry Henry et Olivier Giroud disent mieux pour l'instant. Kylian Mbappé a montré la voie face à l'Allemagne lors de la petite finale de la Ligue des Nations, qui pourtant se déroulait en Allemagne. Kylian Mbappé qui a également délivré une passe décisive, 2-0 pour les Bleus. 31e passe décisive, c'est ça pour Kylian Mbappé, ce qui nous fait un record. Sachant qu'il n'est pas loin du record de buts, c'est pas mal du tout. Concernant les buts, il met fin à une dizaine d'un an en matière de buts dans le jeu.
Oui.
Sous le maillot donc de l'équipe de France, il ferme des bouches, le Kylian.
C'est sûr que ça fait plaisir de recommencer à être décisif. Ça fait du bien de recommencer à marquer, même si j'étais pas très inquiet, parce que je suis quand même l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Je savais que ça allait revenir. Maintenant, c'est des choses qui peuvent arriver. On en parlait beaucoup et je pense que c'est bien. Ça prouve le respect qu'on a sur le joueur que je suis quand je ne marque pas. Et quand je recommence à marquer, je suis content, l'équipe est contente.
Et moi aussi.
Et moi aussi. Vous aurez reconnu la petite voix de Didier Deschamps qui était à ses côtés
côte à côte.
En conférence de presse après la rencontre. Hervé Penaud, on sent que les choses sont toujours un peu tendues quand même autour de Mbappé. Je viens de citer des chiffres hallucinants. Il est l'un des meilleurs buteurs de la saison sur le continent européen. C'est Kylian Mbappé. Et pourtant, encore et toujours, il y a quelque chose un petit peu tendu. Il y a un malaise autour de Kylian Mbappé.
Oh, malaise, on ne va peut-être pas exagérer complètement. C'est lié déjà à la personnalité du joueur. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est quelqu'un qui adore attirer les regards, qui s'est toujours mis au centre de tout. Et dès que ça va un petit peu moins bien, eh ben, il devient le centre du débat. Et d'une certaine manière, je pense qu'il apprécie aussi ça. D'ailleurs, dans sa réponse, c'est un peu ça. Quand il dit, finalement, vous parlez de moi parce que je suis important. Et ce n'est pas faux. Mais au final, quand il fait un tournoi comme ça, il met deux buts de passe décisive. Ah, je veux dire une passe décisive. Parce que pour moi, la première, ce n'est pas une passe décisive, c'est une passe. Qui n'est pas une très bonne passe en plus. Simplement, c'est Cherki qui arrive à se la soulever et à frapper. Mais à côté de ça, il a été impactant. C'est-à-dire que Kylian Mbappé n'est pas rien. On parlait de Ronaldo tout à l'heure. C'est qu'il est encore capable de faire des différences, même moins bien, même moins collectivement dans le projet.
Alors là, il n'y a pas l'excuse
joueurs.
De l'âge. Hein.
Et ce qui est un peu ennuyeux, évidemment, c'est aujourd'hui de ne regarder, de ne focaliser Mbappé que sur une chose, c'est son travail défensif. C'est devenu aujourd'hui le mantra de toutes les analyses sur Mbappé. Oh, mais il n'a pas couru assez. Il n'a pas. Mais à un moment, on lui demande aussi de marquer des buts. C'est Enrique qui disait l'année dernière, les 10 doivent défendre, il y en a un qui doit marquer. Cette année, les 11 doivent défendre. Pourquoi ? Parce que Mbappé, il a un niveau au-dessus, je veux dire, dans ce domaine-là, qui est de l'efficacité. Donc aujourd'hui, ce qu'on lui demande, c'est d'être décisif. Et pour l'instant, il l'est.
Dominique, c'est vrai qu'on en revient à un débat qui finalement est assez proche de celui qu'on avait tout à l'heure avec Cristiano Ronaldo, même si Cristiano Ronaldo, bon, bah, ses accomplissements, ils sont encore plus incontestables que ceux de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il marque. Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé, mais voilà, il y a des manquements peut-être dans le jeu qui font dire à certains qu'il est autant un atout qu'un boulet pour son équipe.
Bah, je ne suis pas totalement d'accord avec Hervé, parce que si on dit c'est purement les buts, c'est l'efficacité, c'est le caractère décisif, bah, hier, par exemple, il rate énormément d'occasions, il rate énormément de face-à-face. Ter Stegen prend le dessus, alors qu'au départ, Ter Stegen est fautif sur le but que Kylian Mbappé met, mais parfois il fait des mauvais choix en contre-attaque, en transition rapide. Donc si on s'arrête que à ça, hier soir c'est pas un grand match malgré son but et sa passe décisive. L'après-midi c'était pas génial. Et puis après, si on prend tous les aspects du foot, bah, il manque encore cette connexion permanente avec ses partenaires. Moi je l'ai pas trouvé connecté à Randall Kolo Muani, Ryan Cherki et Marcus Thuram, qui étaient les trois autres joueurs offensifs du 4-2-3 Didier Deschamps. Et je l'ai pas trouvé non plus très connecté le match
j'ai
d'avant.
J'ai pas dit que tout était parfait, attention. Hein. Ouais, j'ai dit simplement que le débat autour de lui, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu excessif.
Débat qui n'existe que pour lui. Hein.
Ouais, mais non, parce que par contre, quand on voit ce que fait Ousmane Dembélé en finale Ligue des Champions, le harcèlement permanent sur Yann Sommer et le fait comment il rentre dans la tête des interistes, quand on voit ce que fait Lewandowski avec le Barcelone, quand on voit ce que fait Lautaro Martinez ou Marcus Thuram avec l'Inter dans les bons jours.
Ouais, on ne va pas comparer Marcus finale. Thuram et Kylian Mbappé.
Le travail d'équipe, tu peux pas y échapper. Quoi. Et aujourd'hui,
j'ai trouvé que sur le premier match, il a quand même fait des courses.
Il fait des passes décisives. La statistique qu'a donnée Hugo montre qu'il n'est pas non plus totalement déconnecté de ses partenaires, sinon il n'aurait pas ces stats-là. Et puis à un moment donné, il faut arrêter aussi ce type-là, mais passer 40 buts par an depuis plusieurs saisons. Tous les joueurs de foot ne sont pas à comparer, à mettre sur un même pied d'égalité.
Non, mais il n'a rien gagné de majeur avec le Real Madrid.
Il est que depuis un an, pas 10 ans non plus. Oui, hein, vous savez, Ronaldo brésilien, il n'a pas tout de suite gagné.
Le fait d'être soulier d'or, Naïm, tu t'amènes à rien. En fait.
Non, mais en même temps, c'est déjà bien d'être soulier d'or. Il y a des attaquants beaucoup moins forts que Mbappé qui n'ont jamais été, dont on nous explique que c'était fantastique. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi un peu le laisser tranquille, qu'il fasse tout, et je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit sur l'aspect offensif. Il a raté des trucs, des stands, des courses, des dribbles. Il a peut-être été un peu mangé la feuille par moment. Deux buts, deux passes décisives en deux matchs face à l'Espagne et l'Allemagne. Je pense que c'est plutôt correct.
Je ne peux plus me contenter de ça. Moi, j'ai été le premier à l'adorer. J'ai été le premier à l'adorer, à le porter au Pinac. Tout le monde se moquait de moi dans les débats entre Monaco, Paris.
Vous
ne
pouvez plus vous contenter de ça, vous avez dit ?
Ouais, depuis jusqu'en 2022, jusqu'à la Coupe du Monde, celle où il finit meilleur buteur, il met un triplé. Ce n'était pas arrivé depuis 1966 qu'on mette un triplé en finale d'une Coupe du Monde. Jusqu'à la Coupe du Monde, je suis passé pour le Mbappé X, le gars qui le défend pour tout le temps. Mais je ne peux plus, là, depuis deux ans et demi. Je trouve que ça ne suffit plus. Je sais qu'il mettra 40, 50 buts.
Mais vous voudriez quoi, en fait ?
Mais ce que, non, ce que il dit, toujours 50
ce que,
buts
ce que dit Olivier, enfin, ce que dit Dominique,
buts, mais
vous,
dit,
vous, vous voudriez
je
quoi ?
Sais.
Vous voudriez
ce
quoi
que dit, ce que dit Dominique, c'est qu'aujourd'hui, il y a un profil d'attaquant qui a émergé, plus travailleur, plus collectif.
Ils mettent 40 buts ?
Non, voilà. Mais est-ce que c'est ce qu'on leur demande forcément ? Voilà,
Attendez, est-ce que vous comprenez ce que vous venez de dire là ? Est-ce que c'est ce qu'on leur demande forcément ? C'est ce qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer des buts.
Luis Enrique a démarré la saison en disant je préfère avoir plusieurs joueurs à 10 buts qu'un seul joueur à 40 buts. Et il a gagné avec des champions à la fin.
Oui, mais enfin, à un moment donné, si la première chose qu'on demande à un attaquant, c'est pas de marquer des buts,
on est un peu sur un débat philosophico-tactique.
Il marquera toujours 40 buts par saison, 50 buts par saison.
Il est tellement au-dessus.
Moi, je préfère.
Pour gagner avec des champions, il faut faire plus.
Il faut faire plus, d'accord. Il faut faire des courses, il faut défendre. Mais est-ce qu'il sait travailler ? Est-ce qu'il sait travailler défensivement ? Est-ce qu'il sait défendre ? Est-ce qu'il ne met pas son équipe en danger ?
Tous les entraîneurs avec qui il est passé, Luis Enrique, Pochettino, Galtier, Tuchel, Unai Emery, tous ont dit en off qu'il ne travaille pas assez.
Mais qu'il ne travaille pas assez, c'est une chose. Mais regardez,
ça n'empêche pas de mettre 50 buts parce qu'il est
énorme. Dominique Naïm,
c'est un génie.
On va poser la question à Marco Martins, notre confrère de la rédaction portugaise qui est toujours là. Vous en pensez quoi, vous, de Kylian Mbappé vu du Portugal ? Enfin, vous êtes parisien, hein, mais vu de quelqu'un qui suit, qui est portugais et qui suit l'actualité footballistique et sportive portugaise.
On avait les mêmes débats avec Cristiano Ronaldo, déjà, ouais. même à son âge. C'est le joueur qui marque des buts, qui... il ne ferait pas autant de passes décisives, Cristiano Ronaldo, à l'âge de Kylian Mbappé.
Mais le football, il a changé. Ça, c'est de Kylian Mbappé, d'ailleurs.
Oui et non. Je veux dire, un attaquant pointe. Est-ce qu'il s'est vraiment adapté à sa position ? Cristiano Ronaldo, ça a été assez naturel de devenir neuf. Et maintenant, il est totalement dans ce rôle-là. Kylian Mbappé, je trouve quand même qu'il décroche bien souvent sur le côté droit, il recule un peu. Donc, il n'est pas encore habitué à ce poste de neuf. Si un jour, j'espère pour lui, hein, si un jour il est totalement habité par ce poste de neuf, peut-être que les choses vont changer et qu'il apportera des titres. Parce que c'est au final ce que demande Dominique. C'est oui qu'il marque, mais qu'il apporte des titres.
Mais Dembélé,
depuis 2022, il a un petit peu des titres.
Il y a une Coupe du Monde 2018, il y a des titres de champion de France.
On a failli gagner une deuxième Coupe du Monde grâce à lui.
Un moment,
je suis assez d'accord. C'est-à-dire, moi, je comprends les critiques qu'il peut y avoir. Et puis moi aussi, ce côté, peut-être qu'il pourrait peut-être travailler un peu plus. Pourquoi pas ça. Alors, bien sûr, on n'arrive pas à être plus connecté à ses partenaires. Pourquoi pas. Mais alors Dembélé, qu'on a critiqué pendant des années, années et des années, parce que pendant 3 mois, il a mis 25 buts.
Il n'était pas à la même table que Mbappé, hein, pour moi.
Mais c'est ce que je dis.
Ah oui,
c'est que quelqu'un qu'on a critiqué pour, parce qu'il ne marquait pas, parce qu'il ratait toutes ses passes. Parce que, alors, il a suffi de 2 mois où il a marqué, ou 3 mois, parce que c'est ça. En gros, il a marqué de janvier à mars. Hein. Ouais. C'est ça. En gros, c'est ça. Oui. Donc, en 3 mois, ça y est, on a effacé tout. C'est-à-dire que lui, il n'y a plus jamais une critique. Mbappé, c'est un joueur hors norme qui a effectivement des caractéristiques de joueur hors norme, pas simple à gérer, ça c'est vrai. Il a des progrès à faire, peut-être, et puis, ça se... et peut-être qu'il les fera jamais.
Mais moi je pense qu'on gagne l'Euro l'année dernière s'il se casse pas le nez et qu'il est, il met des buts.
Hervé, hein, on a donné Dominique, 8 ballons d'or à un type qui a marché pendant 15 ans.
Il nous reste quelques minutes.
Oui, mais enfin bon, en termes de course et de repli défensif, Messi c'est pas non plus une référence.
Naïm, Dominique, c'est Messi Di Maria, hein. Ça, à toi, à moi, les autres n'existent pas. Dominique, qui a marqué des points outre Kylian Mbappé qui n'était pas trop en danger sur ce rassemblement des gens.
Grande surprise, un défenseur du 17e de Liga du FC Séville, Loïc Badé, j'ai trouvé très très bon pour une première sélection, première titularisation. Match contre l'Allemagne, il peut y avoir un peu de fébrilité. Il a 25 ans, ce qui est tard pour commencer le niveau international. C'est pas sûr qu'on le revoie parce que Saliba n'était pas là, Dayo Upamecano n'était pas là. Il fallait faire souffler Ibrahima Konaté. Donc c'est peut-être quelqu'un qu'on ne reverra pas. Mais...
c'est une analyse de la défense française qui m'a un peu étonné, pour tout vous dire. Parce qu'en gros, elle est aussi nulle la défense contre l'Allemagne que contre l'Espagne. Simplement, l'Espagne marque. Ah bah attends, il y a au moins 4 occasions nettes en 20 minutes. Mais quand je dis net, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 4-0 à la mi-temps, tout le monde aurait dit à la mi-temps. Mais qu'est-ce que c'est que cette défense? Mais
il y avait des trous. C'était plus milieu pour moi le problème à la première
période. Milieu défense, quand je dis de manière collective, on va dire. Mais les passes à l'intérieur de l'axe de la défense avec les joueurs qui s'infiltrent, mais ça c'est quand même.
J'étais plus inquiet pour Lucas Hernandez par rapport à ça.
Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'ai trouvé que l'analyse faite sur la défense française sur le deuxième match est liée surtout à la faiblesse des attaquants allemands.
C'est vrai. Et j'ai bien aimé Malo Gusto aussi, son reste sur le match d'hier. Et j'ai bien aimé évidemment l'entrée d'Eran Cherki contre l'Espagne. Il va changer sans doute de dimension cet été puisqu'il y a, je crois qu'il y a un accord avec City désormais. Donc il va devenir un joueur de Manchester City. Il va devenir surtout un joueur de Guardiola. Je pense que Guardiola, c'est quelqu'un qui te fait progresser énormément. Donc ça va être génial de voir la saison prochaine avec Cherki, Guardiola, City. Parce que s'il arrive à en faire un immense joueur, c'est déjà un bon joueur, on va dire.
En termes de potentiel.
Un potentiel énorme.
C'est énorme.
S'il en fait un très bon joueur en un an, et que les Bleus arrivent avec Michael Olise, avec Mbappé, qui marquera toujours ses 50 buts par an, Ryan Cherki, Randall Kolo Muani, qui peut dépanner, Marcus Thuram. Bon,
on les met tous, Dominique.
Il les met tous, il met plus de défenseurs.
Non, mais 30 sélections. Marcus Thuram, 30 sélections.
Vous voyez, c'est comme ça qu'on parle du Portugal aussi en France. Hein. On voit tous les talents offensifs.
Et tout à l'heure, même Marcus Thuram, il nous expliquait tout à l'heure. Mais regarde par rapport à Mbappé les efforts qu'il fait. Merci. Tu me dis qu'il a mis 2 buts en 30 matchs.
Est-ce qu'il y a un joueur qui a pris le train bleu pour redescendre quasi immédiatement, peut-être du côté de la défense, je sais pas. Non.
Non,
je vous ai pas inspiré avec cette question.
Non, parce que la défense, elle a coulé de manière.
Clément Lenglet ne reviendra pas.
L'anglais. Kalulu.
C'était un peu à lui que je pensais, le pauvre. Non, mais Kalulu aussi.
On sait pourquoi il était là. En plus, il a eu un problème personnel à gérer. Il a fait un aller-retour.
Ouais, là, c'est compliqué. Ouais.
Allemagne-Madrid, Allemagne-Espagne en 2 jours. Ah, il y a quand même beaucoup de circonstances, mais il se trouve qu'on ne le reverra pas si jamais Saliba, Dayo Upamecano reviennent, ce qui me paraît évident. Quand
et
même.
Fofana, il a un jour une chance de revenir ou pas?
Alors, Fofana, le sélectionneur dément, mais il y a eu un problème, un rassemblement. Et Didier Deschamps, qui est un entraîneur à la fois pragmatique, mais aussi un peu rancunier. Donc, pour l'instant, il est toujours dans la zone grise où il n'est pas rappelé. Mais bon,
il est toujours blessé. Donc,
il préfère Zaïre Emery qui ne joue jamais.
Il y a Dissassi et Badiachi.
Non, ça, c'est... Non. C'est vraiment qu'il y a un gros problème...
Bon, l'inventaire à la Prévert de tous les talents français. Bon, c'est pas toujours si évident dans leur talent.
Moi, je pense que derrière l'Espagne, la France est la meilleure sélection quand même.
Très bien, on finira là-dessus.
Devant,
et on ressortira la bande dans quelques mois. Merci Dominique Sévrac, merci Hervé Penaud. Merci Naïm Moniol.
C'était un plaisir.
Merci Marco Martins. Bravo, merci Laurent Salerno.
Vous êtes le brusque.
Merci Pierre Regard.
Même le Ronaldo.
Le gaufret aussi.
Ça, ce sera le vrai dernier mot d'émission. Très bonne soirée.